Vous êtes sur RTL. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h28, bonne fin de journée avec RTL. Quatre invités, quatre événements, RTL Soir exceptionnel aujourd'hui au plus près du terrain pour tout comprendre de cette guerre en Ukraine. Florence Parly, la ministre des Armées, est avec nous maintenant en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
À l'instant, notre invité précédent était Vitali Klitschko, l'ancienne star de la boxe, aujourd'hui maire de Kiev. Comme son président Zelensky, il demande des avions de chasse et vite. On a la sensation que cette requête, Florence Parly, elle embarrasse un peu les Occidentaux aujourd'hui. Quelle est la position de la France, hein ?
Mais notre objectif, c'est de pouvoir soutenir au maximum l'Ukraine. On le fait sur différents champs. Le premier, c'est évidemment l'aide humanitaire. Puis c'est l'aide financière, l'accueil aux réfugiés. L'Europe est en train de s'organiser. Des mesures fortes ont été prises pour cela. Ce matin même, une cellule interministérielle de crise organisée au ministère de l'Intérieur coordonne l'action des pouvoirs publics pour pouvoir accueillir au mieux les réfugiés. Mais bien sûr, il y a aussi l'aide que nous souhaitons continuer d'apporter aux forces armées ukrainiennes. Donc dès le départ, le président Zelensky a exprimé un certain nombre de besoins, des demandes que nous nous sommes efforcés d'honorer. Très rapidement, nous avons acheminé du matériel de protection des militaires et puis des armes dont je ne vous donnerai pas le détail parce que nous ne cherchons pas du tout, bien au contraire, à communiquer là-dessus pour une raison toute simple, c'est que la discrétion en ces matières est clé. Ne pas être discret, c'est fournir du renseignement. Comme l'a très bien dit mon collègue ministre de la Défense ukrainien lui-même, c'est fournir du renseignement aux Russes.
On va revenir sur la discrétion, mais juste sur cette question des avions. Parce qu'on a vu la Pologne, les États-Unis réfléchir à l'envoi d'avions de chasse à l'Ukraine. Mais la question, c'est comment maintenant ? Personne ne semble vouloir prendre la responsabilité de les acheminer. Pourquoi ? Parce que ce serait peut-être perçu comme une déclaration de guerre de la part des Russes ?
La question très délicate, c'est de savoir jusqu'où ne pas aller pour ne pas risquer de basculer dans une autre guerre qui n'est pas la guerre que la Russie a livré et livre toujours à l'Ukraine.
Un conflit généralisé.
Mais un conflit beaucoup plus généralisé. Or, vous savez bien sûr que tous nos efforts aujourd'hui et depuis des semaines sont orientés pour tenter d'obtenir d'abord un cessez-le-feu, ça c'est l'urgence absolue, cesser les combats, permettre aux civils d'être évacués dans les moins mauvaises conditions possibles, et puis poursuivre la désescalade et ouvrir de véritables négociations. Donc on ne peut pas en même temps, si je puis dire, tenter jusqu'au bout cet effort diplomatique considérable que le président de la République a initié déjà depuis des semaines, et puis prendre le risque de changer complètement la physionomie de ce conflit. Et il faut quand même rappeler que nous, la France, nous, l'Europe, nous, l'OTAN, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. La Russie a envahi l'Ukraine, la Russie a créé de toutes pièces une guerre vis-à-vis de l'Ukraine, mais nous ne sommes pas en guerre vis-à-vis de la Russie.
Vous parliez de l'envoi des armes à l'Ukraine et de cette question de la discrétion. C'est vrai qu'il y a eu cette polémique hier avec cette petite phrase du député insoumis Alexis Corbière. Je vous propose de la réécouter.
Mais premièrement, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises. Franchement, c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars.
Est-ce qu'il a été imprudent, Alexis Corbière, en révélant la nature de certaines des armes ? Parce que vous l'avez dit, la France, jusqu'ici, pour des questions de sécurité, refuse de donner une liste détaillée.
Deux choses. Je pense que le moins on en dit, le mieux c'est, pour les raisons de confidentialité et de sécurité des forces armées ukrainiennes elles-mêmes. Et puis le deuxième point, c'est que je n'ai pas l'habitude de commenter ce que les élus de la République disent.
Voilà. Non, mais c'est vrai que vous-même, le 1er mars devant le Sénat, vous disiez des missiles, des munitions vont être livrés. Ça a fait beaucoup de bruit, cette polémique. Je voudrais quand même avoir votre position. Il a été imprudent, Alexis Corbière ?
Je pense qu'il faut en dire le moins possible. Voilà.
Mais pourquoi la France ne veut pas donner de détails alors que certains pays européens, eux, détaillent l'arsenal qu'ils envoient à l'Ukraine ? Il n'y a pas eu de coopération ?
Certains pays européens avaient commencé par donner des détails et vous aurez certainement remarqué que tout le monde a bien compris que ça n'était pas la bonne attitude à adopter. Et donc, aujourd'hui, les pays européens sont très discrets sur ce qu'ils font et ils ont raison.
La France a envoyé des renforts aux frontières de l'OTAN. Par exemple, nous assurons avec nos avions la police du ciel en Pologne, en quelque sorte, pour éviter toute intrusion sur le territoire polonais, donc le territoire de l'OTAN et l'Union européenne. Imaginons, Florence Parly, je sais que c'est un peu de la politique fiction, mais si un avion russe tente d'entrer en Pologne, on a vu des avions russes franchir l'espace aérien suédois, par exemple, ces derniers jours. Quelle est la procédure pour nos pilotes dans ce cas-là ?
Nos pilotes sont entraînés. Nos pilotes ont des missions quotidiennes de défense aérienne. Il peut arriver que dans le ciel national, un avion se trouve à un endroit où il ne devrait pas. Donc ce sont des procédures qui sont extrêmement bien connues, pratiquées, auxquelles nos pilotes s'entraînent.
Mais donc, il y a une consigne aujourd'hui, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais on tire ou on ne tire pas ?
Le protocole est très connu. Moi, je ne suis pas pilote de chasse, donc je ne vais pas vous réciter le protocole, mais le protocole est très connu, que ce soit au plan national ou au plan de l'OTAN. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces missions de police du ciel, elles sont destinées à protéger et surtout à dissuader. Voilà, nous gardons fermement la frontière et nous sommes là au cas où il y aurait une incursion qui n'a pas lieu d'être.
Emmanuel Macron a demandé notamment du calme et du sang-froid aux membres de l'armée. On a l'impression effectivement qu'il faut du sang-froid pour éviter que le moindre petit incident ne puisse dégénérer dans un conflit généralisé. Thierry Burkhard, le chef d'état-major des armées, s'est entretenu avec son homologue russe récemment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a justement un téléphone rouge aujourd'hui pour éviter un conflit généralisé ?
Il est extrêmement important de pouvoir maintenir des canaux de communication avec les autorités russes. C'est ce à quoi le président de la République s'emploie, c'est ce à quoi le chancelier allemand s'emploie. Et au plan militaire, de la même façon qu'il y a un canal au plan politique, il est important que ce canal demeure. Donc nous avons toujours eu des échanges plus ou moins intenses, mais il est important que ces échanges puissent avoir lieu.
Ce même chef d'état-major des armées disait aujourd'hui que les Russes, là, en ce moment, ne sont pas prêts à des opérations de haute intensité. C'est vrai qu'on a l'impression que les lignes de front sur le terrain, j'entends au sol, semblent un petit peu figées depuis quelques jours en Ukraine. C'est aussi quelque chose que vous constatez, vous pouvez nous le confirmer ?
Ce que nous constatons tous, c'est que cette invasion par la Russie de l'Ukraine ne se déroule pas exactement, probablement, conformément aux plans initiaux de Vladimir Poutine. Ce n'est pas une invasion éclair, d'abord parce que le peuple ukrainien, les armées ukrainiennes se défendent et se battent avec héroïsme. Ce n'est probablement pas ce à quoi le président Poutine s'attendait. Et probablement, ses armées ont rencontré des difficultés auxquelles n'étaient pas nécessairement préparées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin du conflit. Ça veut simplement dire que c'est plus long que prévu. Et nous observons, en effet, au cours de ces dernières heures, une sorte de pause opérationnelle, mais dont on ne peut certainement pas inférer qu'elle signifie un ralentissement des opérations dans les prochains jours. Donc, je pense qu'il faut le voir comme une manière de se réorganiser et de poursuivre cet encerclement des villes qui semblent, en particulier celles de Kiev et celles de Kharkiv, mais aussi les villes du Sud, qui semblent être les objectifs principaux.
Merci Florence Parly d'avoir été notre invitée dans RTL Soir, dans ce RTL Soir exceptionnel. On vous le rappelle, 4 invités, 4 événements pour tout comprendre sur la guerre en Ukraine. Après les maires de Mariupol, de Kiev, après vous, Florence Parly, c'est Kaja Kallas, la première ministre de l'Estonie, qui sera avec nous à 19h parce que son pays est évidemment frontalier de la Russie. Une petite pause et ensuite on va défaire le monde dans RTL Soir, vos 20 minutes d'actu autrement. Tiens, dans la famille Poutine, nous demandons maintenant la femme, les filles et la maîtresse. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.